Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va faire une méditation et qui sera accompagnée d'une réflexion particulière pour étayer un peu trois points que j'aimerais donc considérer, que nous considérions ensemble cet après-midi. Alors, premier point, les pertes et les profits. La deuxième chose, que restera-t-il ? Eh bien, de ce que nous aurons fait, de ce que nous aurons dit, de ce qu'aura été notre vie. Et puis, la troisième chose, c'est gagner ou perdre. Alors, on va considérer cela. Alors, une telle réflexion, bien, nous porte particulièrement dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste, dans les livres des Psaumes, et puis on terminera par, l'Évangile. Hein, ce sera la bonne conclusion que nous allons tirer. Alors, on commence par l'Ecclésiaste. Je vais lire le propos, donc, Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Voilà, on va donc lire ce passage. C'est toujours des sujets de méditation. Où il est question, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité quand le bien abonde. Ceux qui le mangent abondent, et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées, pour son malheur, par celui qui les possède. Ses richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il est venu, et pour son travail qu'il emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave, il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent ? Ça, c'est notre première réflexion. Nous passerons à autre chose d'ici quelques instants, mais on va apprendre ce cheminement de cette manière parce qu'il y a un crescendo dans notre réflexion. Première chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les pertes et les profits. Vous savez qu'en comptabilité, eh bien, après l'exercice annuel, eh bien, on essaie de voir un peu ce que on peut en tirer, hein, et de quel bilan nous pouvons, eh bien, quel avantage, quel bilan nous pouvons faire du travail, par exemple, d'une année, etc., etc. Et la Bible aborde justement ce sujet assez délicat qui est celui de l'argent, des richesses, mis en rapport avec l'attitude et le comportement des hommes, le cœur des hommes. Alors c'est vrai que ça revient dans l'Ancien Testament, c'est aussi eh bien un sujet que Jésus traitera, hein, il apportera des sages réflexions et d'amener les gens eh bien à ne pas faire de l'argent son Dieu. Alors c'est vrai que si déjà dans le livre de l'Ecclésiaste il y avait déjà ce genre de choses, s'il y a 2000 ans Jésus a tenu ses propos, alors qu'est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui, hein, dans notre monde super financé, hein, où l'économie eh bien remplit tout, et puis avec tout ce que il y a de bon, tout ce que cela occasionne aussi, hein, de parfois de démonstration d'opulence, et puis également de convoitise, voilà, de convoitise. Alors on est bien au fait de la situation, et j'aimerais justement reprendre ce texte parce que je crois que l'Ecclésiaste a vu juste quand il dit ceci: celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Alors évidemment, vous avez bien compris ce que ça veut dire, c'est que quand on a un bon repas et que l'on sort de table, on n'a plus faim. Mais l'argent, c'est pas un élément nutritionnel, c'est-à-dire c'est un moyen de consommation, et il semblerait que plus on le consomme, plus on en a besoin. Et que quelque part, une fois que les choses sont dépensées, eh bien on a envie encore d'aller plus loin, parce que le monde est insatiable. et que les possibilités d'acquérir, de posséder, en d'autres termes, l'avoir, eh bien, est sans limite. Et c'est vrai que le propos est juste parce que, on le voit, ça se justifie dans la vie, à travers les temps, à travers les siècles, et on s'aperçoit que plus les gens ont de l'argent, plus ils ont besoin d'argent. Alors, il y en a qui n'ont pas, ils se contentent de ce qu'ils ont, hein, mais ça ne les empêche pas quelquefois de gamberger et puis de rêver à ce qu'ils pourraient avoir et qu'ils n'ont pas, naturellement. Et ça, c'est une vérité parce que celui qui aime les richesses n'en profite pas. Alors, c'est vrai que ça s'arrête là, mais il est bien certain que il y a quand même du profit à avoir des richesses, hein. En tous les cas, on les utilise. Et s'ils étaient utilisés à bon escient, mais quelquefois, eh bien, ça va dans un sac hermétique, vous comprenez, ça reste que dans une utilisation très restreinte. Alors c'est vrai que ça peut servir, ça peut être utilisé, mais est-ce qu'il y a véritablement un profit dans tout cela? Qu'est-ce que l'on en retire en final? Parce que le but de la réflexion que nous allons avoir aujourd'hui, et particulièrement dans l'Ecclésiaste, c'est-à-dire que finalement, quel bien durable et qu'est-ce que cela peut avoir comme sens pour faire grandir l'homme, pour l'amener au niveau de sa dimension, de son sentiment, de son affect, mais également davantage, et ça sera la finalité, hein, de notre réflexion. Est-ce que ça lui apporte quelque chose par-delà la vie, par-delà son existence, qui va durer je ne sais combien de dizaines de décennies, mais néanmoins, qu'est-ce que cela peut durer? Sinon, peut-être, et nous allons en avoir la réponse d'ici quelques instants, sinon, eh bien, de léguer un héritage constitué à ceux qui vont venir après. Mais qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Alors, c'est là encore une vanité. Vous savez, c'est le mot qui revient très souvent, ça, hein. Vanité des vanités et poursuite du vent. Voilà, c'est des choses qui, quelque part, eh bien, peuvent être utiles, si elles sont sagement gérées, mais par-delà cette utilité du moment, du temps, de cette part que Dieu nous a donnée dans la vie, qu'est-ce que cela peut avoir, qu'est-ce que cela peut servir? Et il nous a ajouté, mais quand le bien abonde, ceux qui mangent abondent aussi. C'est vrai qu'il peut y avoir une bénédiction temporaire, et que d'autres peuvent en profiter naturellement. Ceux qui mangent abondent, et quel avantage revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Alors il y a naturellement une satisfaction immédiate, parce que être pauvre, c'est pas toujours très drôle. Hein, on le voit chez les autres, mais on n'en profite pas. Mais celui qui, naturellement, eh bien, peut se vanter d'avoir un compte en banque et de compter et de recompter et de dire, eh bien, voilà, j'ai ceci, j'ai cela, je me suis donné ça en plus cette année, j'ai eu tel et tel bénéfice. Jésus abordera le sujet avec ce riche cultivateur et qui, lui, n'en profitera pas. Hein, ça, il en a profité juste simplement pour l'apercevoir de loin, mais voilà, ça n'ira pas au-delà de tout cela. Alors, le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Vous savez, le travail, c'est quelque chose d'important, et s'il y a un enrichissement par le travail, c'est juste, hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. Donc, il peut dormir tranquille, parce que bon, voilà, il ne l'a pas volé. Ce qu'il a, eh bien, il l'a acquis au prix de ses efforts, et quelque part, eh bien, il peut au moins jouir de ce dont il possède. Donc, il peut dormir, donc il est doux, son sommeil, alors qu'il est peu ou beaucoup. Mais le rassasiement du riche ne laisse pas dormir. Alors peut-être qu'il peut y avoir un effet immédiat de dire « j'ai beaucoup d'argent, je suis riche, je suis content, je suis en confiance ». Mais de quelle confiance s'agit-il? Et on s'aperçoit que la suite nous est donnée, c'est que ça ne laisse pas dormir. Qu'est-ce qu'il va advenir de son argent? Ou les voleurs percent et l'atteignent, et bien là, dévorent. Et ça, c'est aussi encore des paroles de Jésus. Et puis, le psalmiste continue, et il dit ceci, « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, hier et aujourd'hui, parce que c'est toujours la même chose, des richesses conservées, c'est-à-dire accumulées, acquises, mises de côté, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. » Eh oui. Et s'il les possède pour lui-même, si sa consommation tourne autour de lui-même, mais que finalement il oublie les autres, alors il nous est parlé de malheur, voire même peut-être de malédiction, ça va ensemble, hein. Et à tel point que, nous est-il dit, ses richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il y a toujours des choses qui quelquefois, eh bien, sont déconcertantes. C'est que si les choses sont acquises honnêtement, ce qu'il faut penser, maintenant il y a aussi certainement beaucoup de richesses, dans un monde tel que le nôtre, tel qu'il a toujours été, hein, de cette convoitise et cette acquisition effrénée de vouloir acquérir le plus vite possible et d'en faire le plus possible, eh bien, il arrive toujours des événements fâcheux. Vous savez, on est à la merci de fluctuations dans notre monde, hein, et aujourd'hui, c'est pas seulement l'avoir d'une personne ou l'avoir d'une communauté ou l'avoir seulement d'un pays, c'est mondial, hein. Quand il y a des déflagrations, on peut dire cela, ou des dévaluations, et quelquefois ça tombe véritablement comme hein, c'est comme une tempête, comme un ouragan, eh bien tout le monde va en pâtir, et peut-être que ceux qui vont en pâtir le plus, ce sont ceux qui ont le moins. Alors, on le connaît, on sait ce qui s'est passé il y a quelques années, en 2008, et on en a encore les effets aujourd'hui. Alors, il ne reste rien entre ses mains, hein, les richesses se perdent par un événement fâcheux, et voilà qu'il a engendré un fils, voilà un espoir. Il a de l'argent, cet homme, il est riche, Crésus peut-être, mais il a enfanté un fils. Alors peut-être que là, à ce moment-là, il va y avoir une perspective, il va y avoir peut-être une pérennité dans la fortune. Et il nous est dit qu'il ne reste rien entre ses mains. Ah, ça s'est vérifié aussi, hein. Ce que l'on peut appeler, excusez-moi, je ne voudrais pas être sarcastique, mais ce qu'on a appelé peut-être les fils à papa. Vous savez qu'ils ont vu les choses, le père, un honnête homme qui a travaillé, qui a monté une entreprise, un empire, hein, qui est devenu quelque chose de colossal, le fils qui est derrière parce qu'il est le légitime. Et lui va finalement se réjouir parce que il n'a pas fait d'efforts, et ça, cela lui revient de droit naturellement. Mais déjà depuis qu'il est tout petit, eh bien, il sait que un avenir l'attend. Mais peut-être pas un avenir du même type que celui qui lui lègue sa fortune. Et à un moment donné, à un moment ou à un autre, il nous dit, mais il ne lui reste rien. Et combien de choses qui, des belles prouesses et des belles entreprises, des choses qui sont venues, eh bien là, finalement, qui ont été une bénédiction aussi pour les autres. Et à un moment ou à un autre, en deux temps de mouvement, tout s'écroule. Parce que, ben voilà, la gestion, et puis le sens des affaires, et le sens de la conservation, et de faire fructifier cet avoir, tout ça a été dilapidé. On pourrait peut-être avoir une pensée pour le fils prodigue, en tous les cas, il n'a eu que la moitié, heureusement, parce qu'il restait le reste. Hein, mais bon, on sait comment ça s'est passé, et ça s'est bien terminé. Mais toujours est-il que ça, c'est une vérité. Et il nous a dit, mais comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne, nu, ainsi qu'il est venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre entre ses mains. Voilà la tristesse de la vie. Voilà en quelque sorte les pertes et les profits, hein, où il y a parfois, eh bien, quelque chose qui démarre bien et qui se termine par une véritable catastrophe. Et la vérité, c'est que les hommes ne veulent pas l'entendre. C'est qu'il nous est dit, il est sorti nu du ventre de sa mère, et puis finalement, quand il va partir, il n'y aura rien d'autre. Il partira de la même manière, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. On n'en mène rien. Réalité de notre vie, de la vie des hommes, afin qu'il puisse prendre dans sa main. C'est ainsi un mal grave, il nous est dit. C'est bien dommage. Vous savez que le monde serait beaucoup plus riche s'il y avait eu un partage, comme Dieu l'a voulu. Vous savez, il y a une belle parole dans la Bible qui nous dit que Dieu a fait les riches pour qu'ils donnent aux pauvres. C'est du communisme, non? Non, c'était les pauvres qui devaient donner aux riches à ce moment-là, non? Enfin, je comprends plus, moi. Mais toujours est-il qu'une chose qui est certaine, c'est que c'est un mal grave que la Bible nous dit. Mais le mal, c'est pas l'argent lui-même, parce que l'argent, il n'a pas d'odeur, enfin, il n'a pas de valeur propre, en quelque sorte. C'est ce que l'homme fait de l'argent, et son utilisation. Et c'est bien dommage que quelquefois, avec des choses qui pourraient être tellement utiles, qui pourraient bénéficier à l'ensemble des hommes sur la terre, on fabrique non pas des choses qui édifient, mais des choses qui détruisent. Quand on voit, et je ne veux pas faire de polémique, mais quand on voit tout ce qui peut être utilisé à des fins de destruction, où les hommes investissent des milliards, des sommes colossales, pour détruire, on dira c'est pour nous protéger. D'accord. Mais bon, quoi qu'il en soit, et vous connaissez les événements de ces derniers jours, hein, avec les otages qui sont pris, moyennant ceci et cela, moi je ne connais rien à la politique. Mais quand on voit un petit peu tous ces mouvements et cette convoitise, et sous le couvert politique, sous le couvert religieux par exemple, et c'est quelque chose qui vous donne le tournis quelque part. On se dit, mais imaginez-vous, si on était dans un monde idéal, avec le savoir-faire des hommes pour s'enrichir et pour avoir les moyens, mais la Terre serait certainement aurait un autre visage, et il n'y aurait pas tous ces conflits, parce que il faut quand même remarquer que la cupidité est la racine même, l'amour de l'argent est la racine même des guerres, du sang, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Si ça pouvait être autrement, si on pouvait rêver d'un autre monde, vous rendez compte, ça changerait, hein. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, et je parle pour la nôtre, hein, où nous sommes en restriction. Restriction de moyens dans les hôpitaux, restriction de moyens pour payer des gens, pour faire le travail. Alors on dit, il faut véritablement que tout ça soit à flux tendu, il faut que ça soit au minimum pour que, eh bien, on fasse des économies. Voilà. Mais on ne parlerait plus de chômage aujourd'hui, hein. Je ne sais pas, je comprends pas grand-chose à tout ça. Vous m'excuserez, peut-être que je suis en train de parler à tort et à travers, mais nous sommes quand même les uns et les autres, eh bien là, témoins de cette situation où on tourne en rond, quelque part, et on cherche des solutions. Et bien que je suis tout à fait conscient qu'il doit y avoir de l'argent quelque part, ça c'est certain. Mais derrière les régimes, derrière les administrations et tout cela, qu'est-ce qui se passe? C'est encore un mal grave, nous dit l'Ecclésiaste. Et il parlait, figurez-vous, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas les dernières nouvelles d'hier ou d'avant-hier. Il y a 2800 ans, on était dans le même problème. Donc l'homme n'a rien compris. C'est vrai qu'il y a eu des progrès, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration du bien-être, des conditions de vie, etc. Ça, c'est une bonne chose, on va pas dire le contraire. Mais quand même, le problème, il est récurrent parce qu'il est toujours le même. Il s'en va comme il est venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé? Finalement, pour du vin, on parle toujours de cet homme qui a réussi, qui a eu un fils, et dont le fils a tout dilapidé, vous comprenez? Ouais. Moi, je voudrais vous dire que si on met ça sous un autre plan, c'est que notre Dieu nous a laissé une fortune, il a laissé à l'humanité une fortune, la terre. Il a laissé les richesses de la terre. Il a laissé cette merveille de nous donner la vie. Et pourtant, le fils qu'il a suscité, et je voudrais le dire à l'avantage, mais le fils qu'il a suscité, à valoriser finalement, eh bien, toute cette richesse. Mais il y a eu aussi, eh bien, des fils indignes, c'est-à-dire les hommes, qui, eux, ont fait exactement le contraire. Celui qui nous a valorisés, eh bien, c'est Jésus. Il est venu, c'est lui le Fils, qui est venu pour nous sauver, de cette misère précisément. Donc, on est dans les pertes et les profits. Et ça, ça nous laisse réfléchir. Et puis, il y a également un autre texte, que deuxième proposition. Elle est intéressante en soi parce qu'elle met, elle fonde, elle nous interpelle sur ce qu'il faut faire. Écoutez bien, dans le psaume 127, il est dit ceci, c'est un cantique de Salomon, vous savez, le même qui a écrit l'Ecclésiaste. Mais Salomon, c'est un homme extraordinaire, il pouvait parler sur la richesse, il savait ce qu'il en était. Mais lui-même n'a pas été un fils finalement, et bien avisé, puisque toute la richesse de son père, le roi David, a été dilapidée sottement à tel point que le règne de Salomon, quand il s'est terminé après 40 années de règne, d'une grande prospérité, il nous est dit que l'État d'Israël était dans une telle dette et un tel, nous pourrions dire, une telle désordre économique, politique, religieux dans tous les domaines. C'était une véritable catastrophe qui a amené le schisme, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et on sait ce qu'il en est, mais pourtant il le dit des choses qui sont intéressantes. Il dit ceci, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? C'est que ça nous ramène finalement à une réflexion d'importance. Que reste-t-il de notre vie dans l'absence de Dieu? Parce que c'est ça la question, l'absence de Dieu ou la présence de Dieu. Dieu est-il présent, oui ou non? Et la proposition est faite dès l'abord, si l'Éternel ne bâtit la maison. Et là, ça nous touche particulièrement parce que cette maison, c'est notre vie, c'est notre capital vie, c'est ce que nous sommes. Et si Dieu ne bâtit, alors à ce moment-là, que restera-t-il? Est-ce que c'est une existence de passage où il ne restera rien? Ou est-ce que véritablement nous laisserons quelque chose derrière nous? On l'a vu dans la première proposition, un père et puis un fils. Le père construit, le fils détruit. Voilà. Et c'est poursuite du vent. Il ne reste rien. Mais là, par contre, eh bien, nous entrons un petit peu plus dans la notion spirituelle et il est parlé justement de cette association entre l'homme et Dieu. Et la maison, c'est nous. La maison, c'est ce que nous sommes personnellement et c'est lui qui se propose de bâtir avec nous. De construire. Jésus l'aura déjà évoqué d'une manière très sensible et très impressive lorsqu'il parlera du fou qui a construit sa maison sur le sable et de sage qui a construit sa maison sur le roc. C'est la même chose en quelque sorte. Alors, si véritablement il y a l'absence de Dieu dans une vie, s'il y a l'absence de Dieu, d'une manière ou d'une autre, quel que soit eh bien là où on se place, eh bien si l'Éternel ne bâtit la maison, s'il n'est pas là, si nous l'associons pas, parce que c'est ça ce qu'il faut bien préciser, ce n'est pas que Dieu ne veut pas bâtir, mais c'est que nous ne voulons pas qu'il bâtisse avec nous. Les hommes ont toujours pris l'habitude depuis Babel de dire, allez, on peut être suffisamment intelligent, allons bâtissons, construisons-nous une tour qui monte jusqu'au ciel. Depuis Babel, ça a toujours été comme ça, hein. Dissociation, on ne veut pas de Dieu dans notre vie. Alors, à ce moment-là, eh bien, ceux qui bâtissent vont travailler en vain, puisque de toute manière, si Dieu s'appelle l'Éternel, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est lui qui donne la pérennité à toute chose. Des choses qui vont rester, des choses qui vont demeurer, naturellement. Si l'Éternel nous garde la ville, et nous avons besoin de protection, nous avons besoin de protection par rapport à nous-mêmes en nous donnant une sagesse, une prudence et d'être des hommes avisés. Alors, si c'est Dieu qui ne garde pas la ville, celui qui garde la ville garde en vain, parce qu'il y aura toujours quelque chose, hein, comme on dit quelquefois dans le livre des Cantiques, des petits renards, vous savez, qui viennent détruire la vigne, hein, et toutes sortes de choses qui vont être dilapidées. Non, peut-être pas tant par nous, mais on va se laisser voler et dérober finalement ce que Dieu nous a donné. Puis il y a cette belle pensée aussi. Parce qu'en vain, vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard. C'est l'image du travail, c'est l'image de s'affairer à nos occupations et de vouloir faire les choses bien naturellement, le matin de bonne heure et le soir tard. Et dans tout ça, c'est une journée. Et il y a des gens qui sont travailleurs, il y a des gens qui sont conséquents. Et si vous mangez à ce moment-là et vous mangez le pain de la douleur, parce que c'est toujours l'absence de Dieu. Il y a des millions et des millions de gens qui ne vivent que pour eux-mêmes, qui ne vivent leur existence pour un but qui est un but dont la visibilité est très réduite, c'est-à-dire leur existence et rien après. Mais c'est la majorité des hommes aujourd'hui, hein. À moins d'être croyant, à moins d'être chrétien, je veux dire, avec les perspectives et avec cette espérance que nous avons dans notre cœur, parce que nous sommes, eh bien, chrétiens. Alors vous pouvez vous lever de bon matin, vous vous mettez à l'ouvrage avec beaucoup de courage, vous vous couchez tard parce que, avec la satisfaction d'avoir rempli votre journée et d'avoir fait quelque chose. Mais si ça tourne autour de nous-mêmes, eh bien ça n'ira pas loin parce que vous mangerez le pain de douleur. À un moment ou à un autre, eh bien les choses n'auront pas finalement de sens et de but. Et quand on fait le bilan, on s'aperçoit, on se dit « mais à quoi cela sert-il » Surtout à l'approche de la mort, lorsque nous arrivons dans la vieillesse, la blanche vieillesse, en disant « bon, j'ai fait ceci, j'ai réussi ceci et cela », c'est une satisfaction en soi, si vous voulez. Mais de dire « eh bien voilà, avec un regret de tout quitter », parce que il y a rien d'autre. Si notre vision n'est qu'une vision terrestre, c'est ce que Paul dira, alors mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir et plus rien d'autre. Mais si c'est l'Éternel qui bâtit la maison, il va nous donner un sens, il va nous donner une perspective et une espérance. Ça change tout. Parce que Dieu est capable d'en donner autant. Vous avez remarqué? Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas à travailler, que nous n'ayons pas à nous occuper comme le reste des hommes de nos affaires et de ceci et cela. C'est tout à fait normal. Mais il est parlé de l'activité, d'une activité intensive, hein, le matin, le soir. Et pour nous, pour ceux qui espèrent en Dieu, eh bien même pendant notre sommeil, nous avons notre récompense et nous avons cette paix qui est cette paix de Dieu avec eh bien quelque chose qui a un sens, qui a eh bien là une perspective. Et puis, également, cette troisième proposition qui nous est donné, et c'est sur laquelle j'aimerais m'arrêter quelques instants, ceci dit, où il est question, et vous connaissez le texte, hein, après avoir parlé des pertes et des profits, après avoir réfléchi sur ce qu'il va rester, ce qu'il restera lorsque nous associons Dieu, oui ou non, il y a une autre perspective, perdre et gagner, ou perdre, ou gagner et perdre. C'est dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, hein, ce texte vous le connaissez bien. C'est tout simplement la vanité de l'existence sans Dieu. Et il nous est dit ceci, donc je rappelle Matthieu 16, 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et Jésus de conclure, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Ou « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Voilà, ça c'est pleinement et totalement évangélique. Hein. Jésus s'adresse à ses disciples, à ses proches, à ceux qui sont enclins à écouter ses conseils, à ceux qui veulent l'associer pour construire leur maison, Vous avez compris de quelle maison il s'agit, naturellement, notre vie, bâtir. Et il dira, mais si quelqu'un, c'est une supposition, c'est une condition, ce n'est pas une obligation, c'est une invitation en quelque sorte, si, vous avez entendu, vous voulez, vous ne voulez pas, c'est à vous de choisir, vous faites le choix. Alors si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire le suivre, bénéficier de sa présence, de son conseil et de ses lumières, de sa sagesse par exemple, alors la première chose qu'il faut faire, c'est de renoncer à soi-même. C'est dur. C'est dur parce que ça met tout par terre de ce que nous avons dit précédemment, et particulièrement dans le livre de l'Ecclésiaste où il est parlé de la confiance dans les richesses, de celui qui finalement peut être riche mais malheureux, alors que peut-être l'on peut être riche et heureux, c'est certain, mais dans la mesure où il y a une autre richesse supérieure que nous avons intégrée à notre existence, parce qu'il n'y a pas de richesse ici-bas qui puisse vraiment nous satisfaire complètement et totalement. Alors qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire que sa vie ne va pas être prioritaire. Sa volonté, sa pensée, ses désirs, il faut qu'il y ait une autre volonté, qu'il y ait un autre désir, qu'il y ait une autre aspiration supérieure à tout cela. Et c'est ça finalement la conversion à Jésus-Christ. Il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire de l'argent, de ses avoirs, de ses capacités, de ses expériences uniquement, eh bien, le sens et le but de sa vie, mais il va les mettre dans une position. Il n'est pas question de dire maintenant je suis chrétien, je veux devenir pauvre parce qu'il faut que je vive de pauvreté. Non, je pense que si Dieu nous confie certaines choses, c'est peut-être pour en faire bénéficier les autres, avec un cœur qui est animé par l'amour, alors qu'il se charge de sa croix. On connaît naturellement le sens, c'est-à-dire que le renoncement, il y a la paix du sacrifice. La croix, c'est le sacrifice qui découle, hein. La croix, c'est un sacrifice, naturellement. Ce que j'ai, eh bien, je te le remets, Seigneur. Je place tout ça sur l'autel, et vous allez voir que c'est quand même le meilleur moyen de le conserver. Voilà. Imaginez-vous Abraham avec son fils, dont son fils était véritablement son espérance, sa perspective, tout ce qu'il pouvait y avoir, et pourtant Dieu lui dit, tu vas me le sacrifier. Tu vas me le donner, tu vas le mettre sur le mont Morija. Et Abraham l'a fait, hein, quelque part. Mais en le faisant, il l'a retrouvé. S'il ne l'avait pas fait, il l'aurait perdu. Voilà, qui perd, gagne. Hein. Et nous gagnons. Nous gagnons à chaque fois avec le Seigneur. Et qu'il me suive. Et suivre Jésus, eh bien, ça veut dire tout simplement, s'il est devant nous, c'est de le regarder, de regarder à lui en toute chose. C'est pas lui qui nous suit, mais c'est lui que nous suivons. Et voilà que Jésus dira, mais celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est un paradoxe, hein. C'est quelque chose d'assez choquant même d'ailleurs, parce que qui voudrait perdre sa vie? Hein, on cherche à sauver notre vie. Hein, il y a des expressions qui sont très propres, qui sont tout à fait significatives, que quand un homme a la vie, il veut la conserver. C'est normal, c'est humain et c'est tout à fait naturel. Alors Jésus ose dire les choses, alors il voudra la sauver, mais il va la perdre. Si sa vie, c'est pour lui-même, si c'est une vie égoïste, si c'est une vie personnelle, alors il va la perdre. Mais Jésus va donner le sens finalement à l'inverse, il dira « Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. » Et vous avez vu qu'il y a une petite nuance, « à cause de moi ». Ça n'a pas été oublié. C'est-à-dire que nous revenons à la deuxième proposition, que si l'Éternel ne bâtit la maison, alors à ce moment-là, il travaille en vain. Mais si véritablement l'homme intègre la pensée de Dieu, et pas seulement la pensée de Dieu, mais le renoncement à lui-même, le sacrifice de la croix, et qu'il suit véritablement, résolument et avec fidélité, alors à ce moment-là, eh bien, il peut gagner. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à donner, mais quand c'est fait auprès des hommes, souvent nous ne voyons peut-être pas le retour, hein, c'est pas garanti. Hein, mais avec le Seigneur, il y aura toujours un retour bénéfique et une grâce particulière. Et puis la question qui est posée, mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Ah, des hommes qui ont voulu gagner le monde, il y en a eu quand même quelques, hein, une kyrielle d'hommes, hein. Tous ces grands conquérants, tous ces gens qui, soit avec les armes ou avec la pensée, avec toutes sortes de processus ou de procédés, ont voulu gagner le monde. Mais il nous est dit tout simplement que à quoi cela servirait-il? Que servirait-il de gagner tout s'il perdait son âme? Parce que la véritable identité, le véritable sens de cette vie, de cette maison vie que Dieu nous a donnée, c'est pas notre avoir. C'est pas notre dimension physique, bien qu'elle soit importante. Ce n'est pas finalement, eh bien, tout ce que nous avons à notre crédit matériel. C'est pas ça l'essentiel. Ce sont des moyens d'existence, tout ça, mais ce n'est pas le but de l'existence, le but de la vie. Alors, s'il perdait son âme. Vous savez, tous ces grands conquérants de l'histoire, je pense et je fais référence à tous ces hommes qui se sont illustrés souvent à travers, eh bien, des armées, à travers sur les champs de bataille. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Ils avaient peut-être des grands projets de changer la société, d'imposer souvent leur régime, parce qu'ils pensaient que leur régime était certainement le meilleur et se disaient peut-être même pour certains inspirés de Dieu. Puis comment ça s'est terminé? Tous, d'une manière ou d'une autre, ça s'est terminé véritablement en débandade, en faillite, quelque chose de catastrophique. S'il perdait son âme, l'essentiel, et c'est au cœur même de la proposition du salut, c'est l'âme humaine. Le Seigneur n'est pas venu sauver notre fortune. Il n'est pas venu sauver ceci ou cela de ce que nous pourrions imaginer, mais il est venu sauver l'homme dans son âme. Voilà, ça c'est le principal, et ça c'est la dimension immatérielle. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous pouvons peut-être acquérir sur cette terre. S'il perdait son âme, ou encore, que donnerait un homme? Alors gagner et donner. Mais s'il donnait tout ce qu'il a en échange de son âme, comment pourrait-il la racheter? Il y a un psaume qui s'appelle le psaume 49, me semble-t-il. C'est un psaume qui est bâti sur ce verset. Gagner, ou qu'est-ce que l'on pourrait donner pour être sauvé? Ah, les religions se sont bien intéressées à la question, parce qu'elles ont renversé le principe de la grâce, du don gratuit, en mettant en place toute une théologie, toute une dogmatique sur ce que l'on peut donner à Dieu. Mais c'est pas nous de donner à Dieu, c'est Dieu qui nous a donné. Et il est dit dans ce psaume, autant que ma mémoire soit fidèle, mais qu'est-ce qu'un homme pourrait faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire dans le psaume 49, finalement, eh bien, pour sauver son âme? Parce que son âme n'a pas de prix. Et vous savez, toutes les théologies à base du salut par les œuvres, de nos mérites, des qualités que nous pouvons proposer à Dieu et toutes sortes de choses, eh bien, ça vient de là, tout simplement. C'est tout simplement une déviation, une déviance du salut par la foi. Parce qu'on est sauvé par la foi et par la grâce de Dieu, tout simplement. Puis je voudrais illustrer tout cela à travers une petite histoire. Voilà, c'est ça la conclusion de notre... Vous allez penser avec moi sur cette petite histoire que j'ai trouvée très pertinente, parce que finalement, eh bien, elle nous parle de tout cela. C'est un petit garçon qui joue sur la plage, et comme tous les petits garçons et les petites filles, alors les parents leur offrent des seaux, des petites pelles, etc., etc. Et voilà que ce petit garçon est en train de tasser du sable mouillé dans un seau pour en faire un beau château. Alors déjà, le seau, il est déjà préconçu pour faire déjà les créneaux. Hein? Voilà, donc il tasse bien. Alors c'est papa et maman qui lui apprennent. Hein, voilà, les choses sont faites. Et puis un peu, on retourne le seau et après vous avez un beau château. Et vous pouvez multiplier les tours comme ça partout. Alors après, ça vous fait Carcassonne. Hein. Alors, un petit garçon comme ça qui est présenté tout simplement de cette manière sur la plage qui joue. Et puis à côté, en comparaison, il y a un homme d'affaires qui est dans son bureau, bien mis en costume avec toutes sortes de gens autour de lui, des collaborateurs et tout ça qui s'affairent autour d'une montagne de dossiers impressionnants. Il y en a partout, il y en a par terre, il y en a sur son bureau. Le pauvre monsieur, on lui voit juste le haut des yeux parce que finalement, il est submergé. C'est un grand patron d'une multinationale, on pourrait dire ça, qui traite de gros contrats ici et ailleurs et qui brasse des capitaux colossaux. Un enfant, un homme d'affaires, un enfant innocent, et puis il y a à côté, eh bien, ce personnage qui a dû être un enfant, qui a dû faire des châteaux de sable dans le passé, dans son histoire, et maintenant c'est un homme. Ce sont deux bâtisseurs, figurez-vous. Si l'Éternel ne bâtit la maison, hein. Ce sont deux bâtisseurs qui construisent deux châteaux. Château sur la plage, puis le château dans les grands buildings de la Défense, ou à la City à Londres ou à New York, hein, vous savez, les gens qui ont réussi et tout ça, deux bâtisseurs. L'un et l'autre, tout simplement, créent quelque chose. Oui, l'enfant le fera à son image, dans son monde à lui, avec beaucoup d'innocence, mais c'est bien, il s'amuse, il joue. Et puis l'autre, bien tout simplement, eh bien, il crée un bien réel. Parce que peut-être a-t-il des centaines et des milliers d'employés, hein, je ne sais pas, mais il y a du réel derrière. L'un avec du sable, l'enfant, et l'autre avec la passion du business. C'est une autre forme de construction, hein. Voilà, tout simplement. Cependant, pour chacun, et ça c'est la vérité qui transparaît et qui apparaît dans cette histoire, cependant pour chacun, tôt ou tard, la marée va monter. La marée va venir et inexorablement, à un moment ou à un autre, va anéantir les efforts du travail, l'effort de l'enfant, mais lui il s'amuse, l'effort de l'autre qui a une grande espérance dans ce qu'il fait, et qui en retire probablement eh bien, de l'orgueil, de la fierté, on dira monsieur, naturellement. La similitude s'arrête là, l'enfant, l'homme d'affaires. L'enfant voit la fin de son rêve, mais il n'est pas triste. Il a construit, il regarde du côté de l'océan, et il voit que ça se rapproche, tout simplement. Il voit son rêve qui va disparaître, tandis que l'homme d'affaires, eh bien, l'ignore, parce qu'il est trop occupé. Lui, pour lui, il faut gagner, il faut aller encore plus loin. J'ai réussi ici, il faut que je réussisse là. Ce sont des challenges, ce sont des défis qu'il se lance, et il faut aller toujours de plus loin. Et il est trop absorbé, et il est trop investi pour s'apercevoir des choses. Parce que quand on a commencé quelque chose, faut que ça soit encore plus grand, toujours plus grand. Faut que la tour de Babel monte jusqu'au ciel, en quelque sorte. Et si nous observons cet enfant, lorsque les vagues approchent, petit à petit, ça va très vite quelquefois, hein. On se fait prendre, hein. Quelquefois on a les pieds sur le sable, il est pas sec, mais à un moment donné on en a jusqu'aux chevilles. C'est très désagréable de finir la journée avec les pieds mouillés. Mais bon, ça ce sont des petites choses qui sont pas bien graves. Et les vagues approchent, elles vont commencer à grignoter un petit peu les bases de son beau travail, de son beau château, peu à peu. Et c'est un château de mer et de sable, hein. Quelle fragilité. Mais c'est bien quand même l'image de tout ce qu'il y a sur cette terre, de tout ce que l'homme fait. Un souffle. Vanité des vanités, parce que vous savez, le sable, hein, votre château, il va se plier, hein. Il sera complètement anéanti à un moment ou à un autre, mais c'est comme cela. Mais l'enfant, quand il voit les choses, il jubile. Il est content. Il est heureux. Parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Mais il est heureux, il chante, il crie, il prend peut-être son papa ou sa maman à témoin en disant « T'as vu un peu ?» Parce que c'est ce qu'il attendait quelque part, il savait bien que ça allait se faire. Et il se met à battre des mains, il fait ceci et cela, il est tout content. Et il n'a aucune peur, aucune appréhension, aucun regret, parce qu'il a peut-être travaillé tout l'après-midi, enfin, il a joué tout l'après-midi. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Alors, il a passé un bon moment comme ça. Et aucun regret, car il savait déjà que son beau château finirait dans les flots. Il le sait tout cela, et il n'en est pas surpris, et il est heureux. Alors qu'est-ce qu'il fait une fois que la dernière vague est passée, que son beau château est raplaplin? Il ne reste plus aucun signe, il ne reste rien du tout, parce que vous avez remarqué les vagues, hein, elles nivellent tout. Voilà, il ne reste rien. Même si vous avez mis des beaux coquillages un petit peu de droite et de gauche, tout est parti. Alors, il va repartir tout simplement avec son père, prenant sa main avec son petit seau, et puis il va rentrer à la maison, tout simplement. Et, par contraste, parce que c'est toujours des comparaisons, nous l'avons vu, hein, dans les trois propositions, toujours le contraste, l'homme dans son bureau, l'homme puissant, le businessman, eh bien, l'affairiste, n'est pas aussi sage. Lui, il n'a qu'une perspective, sa vie n'a qu'une vision, c'est tout simplement toujours, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus, 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 plus. Et à mesure que les vagues de la vie passent, elles vont s'abattre finalement sur les châteaux qu'il a élaborés. Oui, parce qu'il y a la concurrence, parce qu'il y a ceci, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de problèmes qui arrivent, hein. Ça c'est la vie. Vous avez remarqué que dans le monde, rien ne subsiste ou sinon qu'un temps. Les grands empires ont été anéantis après avoir été glorieux. Tous les systèmes même humains qui ont été mis en place, que l'on parle un tantôt à droite ou à gauche, dans les sens politiques, on s'aperçoit que les uns après les autres, vous savez, on avait mis beaucoup de notre espoir dans le monde occidental sur le capitaliste. Waouh, on en revient aujourd'hui comme le précédent qui a passé sur dans le XXe siècle, hein, le marxisme, tout ça, ça a été nivelé, tout ça, ça a été emporté par les vagues. Que va-t-il rester? L'homme est intelligent, hein. Et l'homme inventera certainement encore quelque chose, parce qu'avant ce que nous vivons, nous ici, dans notre temps, dans notre période contemporaine, il y en avait d'autres qui avaient inventé autre chose. Et puis tout ça, ça passe, tout simplement. Alors, à mesure que les vagues de la vie passent, et qu'elles s'abattent sur les châteaux, sur nos châteaux, sur le château, sur les châteaux de cet homme, où nous avons mis, où cet homme avait mis toute son énergie, alors il succombe à la peur à un moment donné, parce qu'il faut prendre conscience qu'au lieu d'avancer, ça recule. Au lieu d'avoir de la satisfaction, ça devient véritablement quelque chose de déplaisant, quelque chose, une véritable contrariété, une vexation, parce qu'il avait mis tout son idéal, il avait mis tout son espoir dans quelque chose qui allait durer peut-être. Vous savez, tous les régimes ont été comme ça. Je voudrais vous dire que le nazisme avait conçu quand même une civilisation qui devait durer 1000 ans. Oui, c'est ça, hein, les théories d'Hitler, etc. 1000 ans, 1000 ans de paix, mais qui commençait par le sang, par la guerre. Hein. Et toutes les révolutions commencent par le sang, en imaginant qu'elles vont véritablement apporter la paix. La paix apporte la paix et la guerre apporte la paix, la guerre. La mort ne peut pas apporter la vie, c'est pas possible. Et quand on commence par la mort, eh bien, tôt ou tard, eh bien, voilà, les choses vont se dissiper. Et nous voyons que cet homme, cet affairiste, va succomber, tout simplement de voir son bel empire se dissoudre, lui échapper et disparaître dans les vagues du temps, parce que, qu'on le veuille ou non, eh bien, voilà, hein, ça passe, et qui emporte tout, son château, ce qu'il avait peut-être pensé n'est qu'un château de sable. Rien de solide. Oui, ce sont tout simplement des grains de sable qui sont agglomérés par le fait même d'être humidifiés ou mouillés, qui montent, mais c'est que du sable. Il n'y a rien à faire, on peut toujours lui donner une forme. On peut toujours les mettre dans un seau pour essayer de donner, eh bien là, une structure, mais c'est du sable. Et l'homme fort hurle, ouais. Il crie, il pleure parce qu'il est obsédé, parce qu'il sait inéluctable, une fois que la machine est mise en route dans l'autre sens, dans le sens contraire, et il dit « mais c'est mon château !» C'est-à-dire qu'il se l'approprie. Et il a raison de dire « c'est mon château », puisque finalement, son Dieu, c'était son château. Son Dieu, c'était son affaire, c'était toute sa vie. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? La vérité, elle est ici, elle n'est pas ailleurs. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie c'est ceci ou c'est cela. Je ne vais pas inventer ou vous rappeler tout ce que peut constituer l'illusion des hommes à construire quelque chose. Pour certains, c'est leur maison, ils passeront toute leur vie. Mais il faut bien se dire que la maison, eh bien, elle va disparaître, elle va s'éroder à un moment donné, même si elle est très belle. Et puis d'autres, ça sera autre chose. Ça sera l'aventure, ça sera l'argent. Ça sera une réussite, une invention, une trouvaille, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Tout est fait dans ce sens. Un château, tout simplement. Mais l'océan du temps, et on n'arrête pas l'océan, c'est pas possible, hein, il passe. L'océan du temps ne répond pas quand il crie. Car l'océan sait, oui, il sait une chose, à qui appartient le sable des plages. Oui, l'océan, il le sait. Parce qu'il sait que il n'est pas tout seul, l'océan. Il y a derrière un créateur. Il y a derrière quelque chose, enfin quelqu'un en tous les cas, que l'on appelle le créateur. Et l'océan, comme l'homme l'ignore, comme Dieu le sait, c'est que finalement l'homme, il n'est fait que de poussière. Et tout ça va disparaître. Et pour nous dire que notre petit garçon qui rentre après avoir été tellement satisfait d'avoir construit son château de sable et qui est emporté par les flots, il va rentrer à la maison, lui, avec son père, main dans la main. Mais le deuxième rentra-t-il dans la maison du père? Rentra-t-il? Rentrera-t-il, finalement? Parce que cette main-là, il l'a lâchée depuis longtemps, hein. Et n'en voulait même pas, en pensant qu'il était suffisamment grand, suffisamment beau, suffisamment intelligent et suffisamment fort, pour se passer de la main du père. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce, parce que j'ai voulu l'illustrer. J'ai trouvé cette petite histoire, je me suis dit, c'est vrai, ça montre un petit peu toute la vanité de la vie. Les pertes et les profits. On en a parlé tout à l'heure. Que restera-t-il? On sait que pour l'enfant, eh bien, lui, il lui est resté. Il est rentré dans la maison du père. Il était content, finalement, d'avoir construit un beau château ce jour-là. Gagner ou perdre? Perdre ou gagner? Et moi, je dirais, qui perd? Gagne, si vous ne renoncez pas à tout ce que vous avez, si vous ne portez pas votre croix et si vous ne me suivez pas, vanité des vanités et poursuite du vent. Que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. On va prier quelques instants, si vous voulez, et on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que il y a des belles histoires qui sont illustrées comme ça. Elles sont toutes simples. Mais elles ont cette signification et elles ont ce sens. Pour celui qui sait écouter, celui qui sait voir, celui qui ouvre ses yeux, eh bien, on est fait pour nous parler d'un Dieu créateur qui n'est pas seulement un Dieu créateur, qui nous a donné le sens de nous associer à sa création pour construire quelque chose de durable, construire quelque chose qui serve aux autres, qui serve à ta gloire d'abord, notre Dieu, et puis qui puisse être une bénédiction. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'est-ce qui est le plus important? Ce que nous faisons, ce que nous réalisons, nos activités, nos projets, nos grands rêves, ou alors, tout simplement, ce qui est à l'origine, Père éternel, de toute cette intelligence, cette sagesse et cette expérience, c'est-à-dire notre personne, notre âme, notre vie spirituelle. Oui, Seigneur, nous croyons, Père éternel, que tu n'as pas lancé à l'existence des êtres inertes, mais tu nous as donné la vie. Et avec la vie, nous sommes capables de faire des choses formidables. Mais Seigneur, ces choses formidables, elles ne sont pas en effet faites pour que nous t'oublions et qu'elles deviennent des dieux pour nous, qu'elles prennent toute ta place. Mais ces choses formidables, lorsqu'elles sont bénies et que toi tu construis la maison, eh bien elles puissent servir véritablement à te rencontrer, à te donner notre vie, à renoncer à nous-mêmes, à faire le sacrifice, Seigneur, de tout ce que tu nous as prêté, parce que finalement tu nous as jamais rien donné, nous avons emprunté, nous avons reçu de ta part, et qu'un jour ou l'autre, eh bien, c'est vrai, le plus élémentaire de l'existence, c'est que nous sommes venus nus et que nous repartirons nus. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous véritablement une perspective durable, une perspective éternelle, et nous voulons te rendre grâce et te remercier que si nous devons construire des châteaux, eh bien que nous les construisions, en effet, même s'ils sont de sable, mais avec toi, Seigneur, parce que c'est toi qui construis la maison, alors à ce moment-là, Seigneur, nous pourrons avoir véritablement une visibilité qui dépassera le temps, et nous te remercions et nous te bénissons dans le nom précieux et glorieux de Jésus, parce que notre âme est véritablement importante. Elle est un véritable trésor, si nous savons te la confier. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.